Aujourd'hui, la masterclass de Dominique González Foster avec Mathilde Sérel.
Merci d'avoir accepté de participer à cette collection de masterclass pour France Culture. Alors la création, c'est l'un des derniers grands mystères. Ce serait dommage d'essayer de totalement le percer. On va essayer quand même de dégager des processus, des lois qui règnent sur ce qu'on pourrait appeler votre climat artistique. Sachant qu'il est perpétuellement changeant, vidéos, photos, installations, apparitions, fictions, il échappe volontairement à la définition, comme vous l'avez annoncé dès le départ, bienvenue à ce que vous croyez voir. Une chose est sûre, Dominique González Foster, vous êtes plusieurs. Et ça se vérifie en 5 dates. En 1998, vous êtes une artiste à 3 têtes, avec vos comparses Philippe Parrainot et Pierre Huyghe, dans une exposition qui va réinventer l'exposition à l'Arc du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. En 2002, lauréate du prix Marcel Duchamp, vous décidez de vous dédoubler pour l'exposition qui vous est consacrée au Centre Pompidou et embarquez le musicien Christophe Van Hoeffel dans votre expodrome. Exotourisme. Expodrome, cette exposition en 2007, où vous présentez sous le nom de Dominique González Foster Essi. Et vous avez une équipée avec vous, des musiciens comme Alain Bachung et JJ Johansson, ou encore le couturier Nicolas Jesquière. En 2008, vous êtes la première artiste française à investir la grande halle aux turbines de la Tate Modern à Londres. Et là, vous convoquez littéralement des monstres de l'histoire de l'art dans votre scénario de science-fiction TH2058. Enfin, en 2015, au Centre Pompidou, vous êtes à la fois Lola Montez, Bob Dylan, Vera Nabokov, dans les films de vos apparitions. Et cette rétrospective aux bornes chronologiques explosées, Dominique González Foster, 1887-2058. Donc, première question pour vous, en quoi c'est ce désir de multiples qui fonde votre art ? Et alors, vous avez le temps de réfléchir.
Je ne sais pas si c'est un désir ou en fait si c'est la perception d'un état. Je me souviens que, alors c'est moins, on en parle moins maintenant, mais je pense que ça date peut-être de la fin des années 80. Une grosse obsession sur les personnalités multiples en fait. C'est-à-dire la découverte d'un espèce de syndrome, quoi, de gens qui sont plusieurs. Et je me souviens que ça avait vraiment résonné dans ma tête avec la lecture de Fernando Pessoa, aussi cet auteur portugais qui a écrit sous X noms et a formulé des œuvres littéraires très différentes. En fait, ouais, je pense que c'est pas tant un désir que la réception d'une perception, c'est-à-dire cette sensation aussi de pas réduire. En fait, tout est constamment fait pour simplifier la personnalité. Hein, c'est un besoin administratif qui nous demande en permanence d'énoncer un nom, une date, une identité. Et si possible toujours la même. Et en fait, ça c'est vraiment c'est pour des besoins de classification, de traçage, de mais ça correspond pas forcément à ce qu'on perçoit à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment une construction. C'est même on va dire une construction récente de vouloir réduire la personnalité à une chose assez très 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 définie. C'est parce que ça simplifie les choses pour tout le monde. Mais au fond, est-ce que si on se concentre vraiment là-dessus, voilà, maintenant on rentre en soi-même et on commence à percevoir finalement par qui, par quoi on est habité. On va se rendre compte que cette réduction à un nom, à une personne, elle est faite pour simplifier la vie, mais c'est pas. Je pense que la plupart d'entre nous vivent à plusieurs, avec. D'ailleurs, c'était très drôle. C'est ce film pour enfants qui.
Vice versa.
Ouais. Parce que même si il différencie un petit peu la multiplicité par avec ces histoires de
classifier en émotions.
Voilà, voilà. Mine de rien, il était assez subtil sur cette complexité et sur ces dialogues intérieurs qui sont menés entre différents aspects de la personnalité.
Vous avez cette formule qui est géniale, qui est « l'éparpillement me resserre ».
Ah bon ? Ah oui. J'ai aucun souvenir.
C'est une formule...
Ça doit être...
À vous ?
Un de mes...
C'est un de vos vous qui s'est prononcé comme ça.
Je m'en souviens pas du tout, mais ça me ressemble, ouais. Oui, oui.
L'éparpillement me resserre, parce que c'est intéressant à la fois quand on regarde donc la société, donc ce système d'unification de l'identité dans le marché de l'art aussi. On doit avoir un style reconnaissable, identifiable. Est-ce qu'au fond, pour vous, un artiste aujourd'hui, son but, c'est pas plutôt de se disperser ?
Ouais, je sais pas s'il y a un but, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des autoroutes. Et le moyen le plus sûr d'être sur, on va dire, l'autoroute d'histoire de l'histoire de l'art, ou en tout cas ce qu'on peut en voir, c'est effectivement un rapport à un programme, à une signature, à quelque chose qui est identifiable. Et des artistes comme Kiesler ou d'autres qui ont une œuvre protéiforme qui va de la vitrine à la maison en passant par le dessin d'une scène de théâtre, etc. On met beaucoup plus de temps à se faire connaître. C'était un grand ami de Duchamp, que des artistes qui ont cultivé dans un médium particulier une pratique clairement identifiable. Après, moi j'aime pas du tout faire de généralité. Voilà. Je déteste l'idée de dire que maintenant ça serait plutôt comme ci ou comme ça.
Mais est-ce que pour vous, le principe, l'idée, c'est pas de se disperser ?
Je dirais presque plus que de me disperser. Au fond, ça démarre toujours avec des grands doutes. Au fond, dès le départ, dès les Beaux-Arts, moi j'ai un très gros doute sur la question d'être artiste. Et j'ai tout de suite envisagé, j'avais tout de suite envie d'être aussi, préfère dire curatrice d'exposition plutôt que commissaire. Enfin bon, disons, de penser les œuvres, pas forcément les miennes, mais de penser un rapport aux œuvres, de penser un rapport aux références, de penser un rapport à l'art comme une série de choix, un peu comme Walter Benjamin organisait ses livres en samplant des citations comme ça. Et en fait, dès le début, j'ai beaucoup douté et j'ai pas du tout assumé l'idée du nom, de la signature, et donc par ces doutes, je pense que ces doutes sont devenus une sorte de méthode et de redéfinition permanente, au fond, de ce qu'est ou de ce que va être une œuvre ou une exposition. C'est-à-dire, ça commence pas du tout par la certitude d'accomplir une sorte de programme de passion ou de mission, mais plutôt vraiment par un doute profond, même sur la nécessité de faire l'œuvre, au fond. Parce que je pense que s'il y a un moment intéressant en ce moment, ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'histoire humaine, dans l'histoire des idées, c'est aussi... alors là, je saute de ce doute à produire des œuvres à un doute beaucoup plus général à produire des choses, et même à, comme humain, à envahir le monde. C'est drôle à quel point actuellement l'excitation qui est revenue sur le fait d'aller sur Mars,
l'exotourisme,
qui s'était un peu calmé. C'est drôle à quel point on est quand même maintenant dans une période où on a pensé la colonisation, la décolonisation. C'est quand même fou qu'on pense comme espèce que c'est tout à fait normal d'aller sur une autre planète. C'est fou comment le désir comme ça d'explorer un ailleurs, qui a été celui qui a pu emmener des gens vers l'Amérique du Sud avec les désastres, ou l'Amérique du Nord, enfin, c'est fou avec les désastres qu'on connaît du point de vue de l'anéantissement de cultures entières en Amazonie, enfin, c'est fou à quel point chez l'humain des choses qui sont valorisées comme héroïques, c'est-à-dire cette attraction pour les autres mondes, qui moi me fascine aussi, hein, ces déplacements, mais on peut trouver ça dans l'art aussi, quoi, cette espèce d'aspiration à produire une chose extraordinaire. Mais c'est fou en même temps à quel point on va dire que la critique avance moins vite que ce désir toujours très très fort chez l'humain d'avancer, de continuer, d'envahir, de sans s'inquiéter. Enfin, il y a heureusement des romans géniaux là-dessus sur à quel point et les chroniques martiennes de Ray Bradbury le premier, à quel point en fait quand les Terriens arrivent, ils détruisent une culture géniale qui était là depuis. Moi, je pense souvent. En fait, je pense
avant une œuvre, vous pensez à ça.
Je pense souvent aux œuvres aussi en termes de paradoxe, c'est-à-dire à la fois leur intérêt comme pulsion, comme invention, comme tension entre l'existence et l'envie de laisser des traces, et entre l'apparition et la disparition. Et en même temps, je ne sais plus à qui j'en parlais l'autre jour, mais à quel point les artistes sont aussi complètement inconscients dans leur désir, puisque finalement, enfin, il faut réaliser quand même que la nécessité de garder, de conserver des milliers, des millions d'œuvres dans le monde, ça occupe des milliers de personnes, ça, c'est un bazar fou. Heureusement qu'aucun artiste ne s'est jamais demandé, par exemple, heureusement que Léonard de Vinci a pas pensé aux gardiens et aux caisses qu'il allait falloir, aux soucis qu'allait causer son œuvre, quoi. Mais sans parler de la Joconde, je veux dire, c'est drôle, en fait, de penser que c'est une activité comme ça, à la fois très pulsionnelle, parce qu'il faut une pulsion forte et il faut une sorte de drive, de moteur insensé pour penser que ça a un intérêt d'aller, ben, je pense à ceux qui ont démarré avec l'abstraction ou à toute formes d'art qui ont poussé des limites, ou donc il faut une sorte de désir fou qui va au-delà du bon sens, du bon goût, de tout ça. Et à la fois, paradoxalement, ça rencontre aussi après une sorte autre chose, quoi, qui est cette nécessité de préserver cette pulsion. Et parfois ça représente des coups et des délires incroyables. Enfin, les transports d'œuvres d'art, vous n'êtes pas forcément au courant des aspects techniques des transports d'œuvres, mais c'est une chose insensée. Et je pense qu'aucun artiste... imaginons maintenant, puisqu'on est rentré dans une période où on se responsabilise pour tout, quoi. Chaque enfant, c'est super d'ailleurs, je trouve, il s'inquiète de l'eau qui coule, il s'inquiète du truc qu'il faut pas jeter.
L'empreinte carbone et l'empreinte artistique.
Voilà. Mais commençons maintenant à imaginer comme ça, alors moi j'en parlais avec je prépare une exposition à Toronto en 2020 et on discutait la directrice du musée, et je lui disais, ça serait drôle d'imaginer une œuvre qui se prendrait complètement en charge, en fait. Donc, en amont, qu'est-ce qui pourrait être une œuvre qui ne poserait jamais ce genre de problème, quoi, c'est-à-dire comment, où je vais la stocker, comment je vais la transporter, qui va la garder, comment elle va se... Ah, j'ai pas encore trouvé la solution, hein, je cherche, hein. Mais c'est juste pour dire, voilà tous les trucs qui me traversent l'esprit et qui sont des doutes très profonds avant même quand on m'invite à une exposition, quand je commence à réfléchir à quelque chose. Disons que avant même de me dire qu'est-ce que je vais faire, ou je me demande vraiment pourquoi je vais le faire et est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire.
Et puisque vous parlez de cette question d'envahir ou pas l'espace, est-ce que c'est ça qui vous guide dans cette façon finalement de concevoir davantage du climat que des objets, des espèces d'espace, comme dirait Pérex? On a beaucoup dit à propos de votre travail, et quand on pense aux chambres de Fassbinder ou au splendide hôtel que vous avez présenté au Palacio de Cristal à Madrid, on est sur des constructions de climat et pas des objets.
Oui, effectivement, je pense que déjà j'ai un gros doute sur le fétiche, et donc ça suit la réflexion précédente, c'est-à-dire sur la chose qu'on va garder, conserver, archiver, et je lui préfère de loin l'expérience. Au sens, c'est-à-dire pas forcément, c'est pour ça que je trouve que l'exposition comme médium, c'est vraiment une direction, pour moi, qui a une force, parce qu'en fait, elle transforme l'œuvre en expérience, et par son immersion, elle génère, je dirais, un rapport à l'œuvre qui est de l'ordre de la mémoire après ça peut être, il peut y avoir une trace photographique, un enregistrement
comme pour vos apparitions qui
complètement
sont filmées.
Mais c'est vrai je pense que ça fait partie de cette réflexion là, c'est-à-dire de pas accumuler encore des formes supplémentaires, et j'aime beaucoup quand l'exposition se termine et qu'en fait il reste assez peu de choses finalement. Je trouve que ça, il y a une réussite à pas encombrer. Je suis sûre que si on, et c'est là où ça redevient un peu paradoxal, si on commençait à examiner de près, tant de mètres carrés de peinture là, qui sont fabriqués à partir de ça, que nanana. Et si on rentre dans ce détail, aussi, il y a un peu moyen de tuer le désir aussi, quoi. Donc il faut quand même, il faut trouver une sorte de, entre les questionnements, les doutes, et après, je sais pas si je suis prête à aller au bout du bilan carbone de l'exposition et de, c'est pas ça non plus, quoi. Mais c'est une pensée un peu large sur le rapport à l'existence, au monde, au temps aussi.
Et d'aussi longtemps que vous en souveniez, est-ce que ça vient d'une conscience, du climat, d'une conscience écologique, d'une conscience planétaire, ou est-ce que ça vient peut-être de votre enfance à Grenoble, dans cette ville neuve qui est héritée en fait des idées de Le Corbusier, et qui est construite à partir de ça, qui est un laboratoire et qui donc est aussi une articulation comme ça globale de propositions dans l'espace. Est-ce que c'est ça finalement peut-être qui vous a emmené vers ce travail de transformation?
Cette architecture, c'est l'architecture d'une époque aussi. Donc c'est une architecture d'idées, d'expériences. Peut-être qu'on se rendra compte un jour que le XXe siècle est vraiment un siècle complètement expérimental, et avec des formes en fait très très extrêmes, quoi. Et c'est vrai que de grandir, moi, je suis complètement persuadée que les architectures dans lesquelles on grandit ont un très grand impact, même sur l'organisation psychique. En fait, il y a toutes ces histoires de théâtre de la mémoire, donc ces rapports à un espace où on place des expériences, des lieux, des pensées. Si vous grandissez dans un espace qui a été constitué avec certaines règles, c'est ça votre théâtre de la mémoire. Donc c'est là que vous organisez vos pensées, vos émotions. Donc forcément, c'est sûr que j'ai été. Je pense même qu'on s'identifie à un espace en fait. On le mémorise. Il y a une mémoire musculaire, on s'identifie à une mémoire émotionnelle. Et c'est vrai que moi, après chaque fois que je voyais une photo de Brasilia ou Chandigarh ou des villes nouvelles, même sans aller aussi loin, J'avais envie d'y aller, je pense, comme celui qui voit la photo de, je sais pas, qui peut-être il y a plus longtemps voit la photo de son village et a une sorte de pincement, quoi. Parce que pour moi, c'est grand, c'est sûrement les premières formes que j'ai vues avant même Grenoble. Donc j'ai les trois premières années étaient à Strasbourg dans la cité universitaire, ouais, qui était construite dans les années 60 aussi. Et quand j'y suis retournée à l'occasion d'une tournée avec Alain Bachon, la tournée des grands espaces. J'étais jamais retournée à Strasbourg dans ce quartier. Bah, tout d'un coup, j'ai réalisé même que ce rapport à la ville nouvelle et à ses espaces, il venait d'encore plus loin. C'est-à-dire que, je sais pas, dans ma poussette, là, j'avais dû voir ces grands immeubles et que ça avait, il y avait une empreinte. Il y avait une empreinte.
Et du coup, votre matériau, est-ce qu'on peut dire que c'est l'espace? Finalement, puisqu'on a traversé tous ces médiums, et c'est peut-être ça le point commun.
C'est sûrement, en tout cas, c'est une. Alors, est-ce que c'est lié aussi à des, je sais pas. Après, on est tous un peu différents du point de vue de la perception. Certains entendent beaucoup plus de sons, d'autres voient beaucoup plus de couleurs, d'autres ont une orientation. Enfin, il y a encore une fois tellement un besoin de simplifier les choses qu'on n'imagine pas à quel point on est tous différents dans la perception. Il y en a un dans l'obscurité, il verra presque rien. Il y en a en fait, si on commence à regarder tout ça, eh ben moi je pense que je devais avoir quelque chose, mais là pour le coup c'est carrément un peu qui me rendait très sensible à l'architecture, à l'espace, et je dessinais enfant, je dessinais surtout, je faisais des plans sans fin, quoi, d'intérieur, je pense que oui, ça, j'avais aussi plusieurs maisons de poupées dans lesquelles j'organisais des micro-expositions, et j'étais vraiment souvent, même en Lego, je faisais des habitations. J'étais tout le temps en train de penser spatialement.
Et justement, elle va un petit peu plus loin aujourd'hui, cette pensée de l'espace dans vos travaux, Dominique González-Foster, parce que vous faites donc ces apparitions. C'est comme ça que vous les appelez. Vous pouvez être, par exemple, Émilie Brontë à la Fondation Louis Vuitton. Vous pouvez être aussi Edgar Allan Poe au Palais de Tokyo. Je parlais tout à l'heure de Bob Dylan, Vera Nabokov, Fitzcarraldo en hologramme, Lola Montes. Ce sont des espaces aussi pour vous, ces personnages?
Ah ouais, exactement. Les personnages sont aussi des espaces. Et en fait, les êtres sont des espaces. Une manière, on revient à l'idée du théâtre de la mémoire, mais une manière de penser l'être, ou de penser le corps, c'est aussi de le penser comme un espace, et forcément un espace qui s'identifie aussi à d'autres espaces. Donc il y a des qui se visitent aussi. Moi, j'ai l'impression quand je suis dans des périodes de préparation d'apparition comme ça, j'ai vraiment l'impression de rentrer quelque part. Et puisque de toute façon, quand on lit des biographies ou il y a un film fabuleux de Fritz Lang qui s'appelle Secret Beyond the Door, où un architecte collectionne des chambres, et on se rend bien compte en fait à quel point chaque chambre, enfin, il y a vraiment une analogie possible entre les êtres et les chambres et les lieux. Ouais, des fois j'ai l'impression qu'on avance plus par l'analogie que par la tentation de différencier ou de séparer.
Et comment ça vient, par exemple, l'idée de départ d'un personnage? Ou est-ce que c'est lui qui s'impose à vous dans ces apparitions qui sont des transformations physiques et mentales aussi? Lorsque vous apparaissez en Vera Nabokov, elle vous visite?
Oui, ben oui, c'est des lentes et longues obsessions, parce qu'en fait, et puis qui sont liées aussi, à des sortes de, qui sont liées aussi à des fascinations pour des pratiques ou pour des œuvres, ou donc c'est pour l'instant. Après, je sais pas, il y aura peut-être d'autres types d'apparitions, mais pour l'instant, c'est aussi une manière d'explorer des pratiques et des existences et d'aller plus loin dans leur mais j'ai remarqué aussi Je sais pas, ils ont, je sais pas s'ils ont trouvé en moi une sorte de porte. Là, c'est plus, c'est, je fais plus un petit effet de science-fiction.
C'est un moment X-Files, un peu.
Ouais, voilà. Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, là, il y a un moyen de sortir, comme ça. J'avais une expérience fabuleuse avec Mélanie Gerbeau, qui fait toutes les perruques et les maquillages pour ses apparitions, les transformations, mais ça va bien au-delà de ça. Quand on avait fait des essais pour Edgar Allan Poe, vraiment l'impression qu'en fait, qu'il voulait tellement sortir, qu'il était tellement... Ça vous paraît incroyable quand vous me voyez là, parce que c'est pas évident, mais c'était insensé. D'ailleurs, c'est une des apparitions qui m'a le plus marquée, parce qu'elle est... Elle a vraiment amené à quelque chose d'un peu borderline comme ça. Donc je pense que est-ce que c'est une porte? Est-ce que c'est une sorte de disponibilité à quelque chose? Après, je me prends pas pour un médium, j'ai pas cette, mais pas une actrice non plus. C'est-à-dire que c'est une autre pratique. Elle est profondément liée à l'art, dans le sens où c'est quand même explorer. C'est aussi cette sensation d'être vraiment à l'intérieur de l'œuvre, au fond. C'est-à-dire dans le moment. Moi, c'est un truc que j'envie tellement aux musiciens, aux chanteurs, aux acteurs. C'est au fond de pouvoir être. Que le moment de la réalisation de l'œuvre soit complètement synchronisé. En fait, entre production et diffusion, il n'y a pas d'écart. Dans certains rapports à des œuvres que je peux imaginer, il y a soit des fois des années, pour des très grands ensembles en extérieur, comme le Ballard Garden à Anvers ou Desert Park à Inyotim, qui sont des jardins, des parcs. Il y a des années de conception, de réalisation, donc il y a un très grand décalage entre la première vision, on va dire, et l'apparition. Et comment condenser en fait vraiment le vortex et la beauté du moment où on a la vision. Moi, ça m'arrive souvent la nuit en fait. Je suis allongée dans le noir, je pense j'ai la chance d'avoir des sortes de visions comme ça. Mais attention, c'est des visions préparées, ça veut dire, je pense pas que c'est parce qu'il y a tout un terrain et parce qu'il y a un ensemble de lectures et un ensemble de préoccupations qu'à un moment donné, c'est comme une espèce de résolution, quoi. C'est que tout d'un coup, mais ça pourrait pas se faire s'il y avait pas, parce que ça c'est un grand mythe de la création,
l'idée géniale,
voilà,
l'ampoule qui s'allume.
Mais en fait, l'idée est, c'est simplement, c'est la résolution après. Un temps énorme de recherche, et en fait c'est tout d'un coup une précision par rapport à une accumulation de questions, de recherche, mais c'est jamais ça tombe pas comme ça, c'est en fait c'est parce qu'il y a une sorte de préoccupation et aussi un tressage de pensée qu'à un moment donné il y a quelque chose qui apparaît, mais c'est évidemment pas
tombé du ciel ou du rêve.
Ceci dit, moi j'attends, et des fois c'est la sécheresse pendant des mois, j'attends avec toujours, j'ai une immense gratitude pour les moments où tout d'un coup la chose apparaît, parce qu'il peut se passer des mois, bien sûr, où j'avance, où je lis, où je prépare, mais où j'ai pas vraiment de vision qui me... Ouais, c'est pas du tout une chose... Par contre, il faut le terrain. Ah ben oui.
Et justement, dans le cadre de cette masterclass, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur un des terrains qui vous nourrit, qui prépare les apparitions, c'est le cinéma. On parlait donc de tout à l'heure de Fitzcarraldo, donc c'est le héros d'un film de Werner Herzog qui est incarné par Klaus Kinski. Lola Montes, bon c'est également du cinéma. On est là avec Max Ophuls. Vous avez cette chambre de Fassbinder qu'on a évoquée dans le début de vos travaux dans les années 90. Et puis à la Tate Moderne, quand vous êtes dans la salle des turbines, vous imaginez un montage de tous vos films cultes. Il y a Jerry de Gus Van Sant, il y a Mission to Mars de Brian De Palma, il y a Alphaville de Godard, il y a Stoker de Tarkovsky, il y a La Jetée de Chris Marker, il y a Le Chant du Styrène d'Alain René. Comment vous avez dit une fois que le cinéma était venu aider les arts plastiques. Comment il vous aide justement, vous?
Bon, je pense qu'on est tous construits par une mémoire cinématographique qui et que parfois c'est très artificiel de faire la différence entre des souvenirs de cinéma et des souvenirs, on va dire, vécus corporellement. C'est-à-dire que les souvenirs de cinéma sont formes, et il y a Stanley Cavell, le philosophe qui base vraiment sa pratique sur le cinéma. Il a complètement montré à quel point des scènes de cinéma sont constitutives même de nos changements, de nos évolutions psychologiques et en fait, je pense que avec Philippe Parrainaud, avec qui j'étais au Beaux-Arts et même au lycée, avec d'autres artistes, peut-être qu'on a grandi dans un moment où le cinéma représentait pour nous une mémoire artistique peut-être plus stimulante et plus désirable que l'histoire de l'art, bien que le champ de l'art était comme terrain d'expérience fabuleux, mais dans cette mémoire cinématographique, il y avait au fond aussi, je pense que dans la mémoire cinématographique, il y a aussi une mémoire. Alors moi, j'ai travaillé une fois avec un groupe d'étudiants sur une histoire secrète de l'exposition à travers le cinéma. C'est qu'en fait, le cinéma permettait d'identifier des rapports à l'œuvre et à l'exposition un peu plus extrêmes. Bon, moi, j'ai une obsession, c'est l'œuvre d'art du futur, quoi. Bon, par le cinéma, j'ai l'impression qu'à travers le cinéma, et par exemple très récemment, pour ceux qui regardent le nouveau Twin Peaks, à travers, et où je trouve que c'est vraiment, c'est une des grandes œuvres de 2017. Là, j'ai l'impression qu'il y a une invention sur ce que pourraient être des œuvres du futur. Après, je dois vous confier.
En quoi quelles sont les clés que vous avez perçues dans Twin Peaks, le nouveau et l'ancien, déjà, que vous aviez loué pour l'alliage d'énigmatique et de précision?
Je pense que le très grand arc temporel, là, les 25 ans, qui sont 25 ans pour le réalisateur, mais aussi pour les spectateurs qui ont vu, pour les acteurs, et qui sont... C'est une donnée extraordinaire de cette œuvre, en fait. C'est-à-dire le fait de pouvoir penser si longtemps à quelque chose, je pense que ça, ça explique en partie la beauté, mais pas tout. Après, donc je pense qu'il y a il y a quelque chose sur le temps qui est particulier. Après, je pense qu'il y a aussi dans la retenue qu'a eu Lynch par rapport, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un film tous les deux ans depuis 25 ans, après Inland Empire, les modalités du cinéma lui convenaient pas, et du coup il a mis en retrait toute une pratique, toute une pensée qu'il a déplacée, et du coup il a préservé quelque chose. Et là aussi, je pense que j'en ai peut-être pas assez parlé.
C'est retenu, comme vous le disiez tout à l'heure.
Ouais, j'en ai pas assez parlé aujourd'hui, mais à côté du doute, moi je place vraiment la réserve et la retenue et le comme un élément principal de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ça sorte comme ça tout le temps et qu'en fait, il y a autant de définitions possibles à ne pas faire certaines choses qu'à les faire et autant de nécessités à dire non qu'à dire oui. Et c'est absolument... Après, ça me, on va dire, ça me met plutôt dans la famille du champienne. Mais ça résonne aussi avec l'envie de pas envahir le monde avec, comme ça, la création, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ressort très profond, une nécessité. Bon, c'est pas un hasard si dans le bureau là du personnage qu'incarne Lynch dans la saison, s'il y a un portrait de Kafka, c'est qu'en fait, il y a une différence ça c'est aussi la formule de Godard, les professionnels de la profession, et le fait de pratiquer quelque chose parce qu'on est pris dans un ensemble au fond de demandes et de comme ça, et puis la nécessité beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus je dirais même des fois avec une dimension qui peut être angoissante, de formuler quelque chose dont on pense que ça peut avoir une utilité, quoi. Moi, j'ai une fascination de ce point de vue pour les textes littéraires qui disent quelque chose de l'humain, mais aussi de son paradoxe entre sa présence à la fois fertile et destructive. En fait, je suis vraiment en tension entre ce texte, ce livre, cette chose que j'aurais envie d'écrire qui serait profondément, comment dire, qui arriverait à dire ça. Donc là, j'ai des espèces d'histoires en tête que j'ai envie d'écrire. Et puis des choses beaucoup plus, quand même, légères.
Mais justement, c'est la littérature, c'est un autre art clé. Dans vos recherches plastiques, c'est votre ami, l'écrivain espagnol Enrique Villamatas, qui parle de vous comme d'un écrivain sans cabinet. Il dit, chez elle, tout commence par les livres. Elle fait de la littérature en expansion. On parlait tout à l'heure d'un travail fondamentalement spatial. C'est juste ça, cette histoire d'écrivain sans cabinet, ça définit bien votre travail de
Non, c'est Pastor. Écrivain raté. Soyons clairs, c'est plutôt qu'en fait jusqu'à maintenant j'ai pas. C'est vrai que le livre c'est ce qui me fascine le plus et j'ai pas du tout réussi à. Je cherche et du coup c'est une espèce ouais de littérature qui s'étend ou plutôt c'est plein d'emprunts à la littérature. C'est cette conversation super fertile avec Enrique, mais c'est quand même une fascination très grande pour ce qui me paraît quand même le plus génial, c'est quand même d'aboutir à un livre. Après, il y a d'autres choses. Mais en ce moment, pour parler de choses plus légères, j'ai un très très grand bonheur à écrire des chansons. Donc je cale complètement sur le livre, mais alors, les chansons me sortent comme ça, et donc ça c'est complètement nouveau. Ouais.
Mais si on réfléchit à cette idée de littérature que vous essayez d'atteindre, en même temps, vous vous organisez aussi pour y échapper. Il y a quelque chose de très fixe dans le parallépipède rectangle que propose le livre. Et quand on réfléchit à vos expositions, Dominique Gonzalez-Fosseur, vous dites toujours que vous pensez au plan d'évasion. Ouais. Donc finalement, dans cette idée de repousser les limites de l'œuvre, la littérature, c'est pas pour vous.
La littérature, c'est pas pour
vous. Non, mais dans l'espace fixe, si, c'est peut-être
c'est pour vous.
mais vous essayez toujours d'échapper quelque chose.
Non, mais c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours un plan d'évasion. Alors ça, c'est un livre génial de Adolfo Bioy Casares. Plan d'évasion, il y a toujours un plan de fuite et il y a toujours, le doute est toujours là, puisque effectivement, si on me dit d'exposer ici, je vais demander si je peux aller là, et si on me demande de faire ça, je vais voir si je peux pas éteindre plutôt cette lumière là-haut, mettre de la musique, enfin bref. C'est pas mal ce que vous dites, parce que j'imagine que ça explique peut-être. Il faut que je monte un petit piège, en fait, pour sortir cet ensemble de textes auxquels je pense, il va falloir que je. Il faut inventer un piège.
Ben, c'est Enrique Villamata, justement, qui dit qu'il faut vivre au-dessus du piège, que c'est la meilleure façon de s'en sortir, qu'il faut construire son propre labyrinthe et vivre au cœur. Quand vous pensez une œuvre par rapport à l'autre, est-ce que vous avez la sensation comme ça de repousser cette limite ou de d'inventer un piège encore plus astucieux?
Moi, je pense souvent à un livre de Roberto Bolaño qui s'appelle « Les détectives sauvages ». Dans les détectives sauvages, il y a ces deux jeunes poètes, en fait, qui se lancent à la recherche de cette poétesse disparue, dont les poèmes, dont certains sont juste, en fait, des lignes, des dessins, et qui se lancent à sa recherche, mais d'une manière, on va dire, la méthode est pas inscrite ni fondée. Et moi, cette expression de détective sauvage, par rapport à une œuvre ou à la constitution d'une œuvre, je la sens très proche. Dire qu'en fait, j'ai quand même souvent l'impression, ou alors comme dans des très bons romans noirs, quoi, on va dire, où finalement, je commence une recherche et puis, alors je vais trouver autre chose, et en fait, la route va dévier, puis finalement. Il y a un film comme ça, je sais pas si vous l'avez vu, que j'avais réalisé pour la Biennale de Venise, Di Novo, qui est en fait un peu cette histoire de, donc c'est la cinquième fois qu'on m'invite à la Biennale et du coup je bute là-dessus, quoi, parce que je sais pas comment répondre une fois de plus à cette situation. Et du coup, je commence à décrire les moments précédents, mais aussi aller dans le backstage de ça. Et finalement, je trouve que c'est, et Enrique, il fait ça tout le temps aussi, c'est-à-dire que c'est plutôt en allant soit transversalement, soit obliquement dans la difficulté ou dans les conditions de la réalisation d'une œuvre qu'il se passe des pensées intéressantes, plutôt, on va dire, que dans un rapport héroïque à la réalisation de quelque chose qui serait un peu, ouais, je vais le faire, ça va être génial. Non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt, comment je me suis encore mis dans cette situation, mais finalement, une sorte de doute fertile qui permet de voir le côté de quelque chose et de rentrer dans la notion, parce que finalement, ce qui est tout aussi intéressant que l'œuvre, c'est pourquoi c'est une œuvre, quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre ? C'est tout à fait simple de dire, voilà, quand on est face à une peinture ou une sculpture, on a l'impression que c'est donné. Mais est-ce que c'est pas la énième répétition d'une formule ? Est-ce que c'est pour autant de l'art en train de se penser, en train de se faire ? C'est pas sûr. Et en fait, pour arriver comme ça à une sorte de zone d'hésitation, moi, j'aime rien tant que quand on n'est pas complètement sûr que c'est soit de l'art, soit une œuvre, et pourquoi on n'en est pas complètement sûr. Ça veut bien dire qu'on touche à quelque chose de finalement de plus intéressant, qui est vraiment la nature de l'œuvre. Pourquoi on fait des œuvres, à quoi ça.
Et lorsque justement vous avez l'impression que vous allez vous piéger sur une production d'une œuvre qui n'est qu'une œuvre, finalement, c'est là que vous allez vous frotter à l'altérité des autres artistes. Quand on vous voit avec J.J. Johansson, avec Alain Bachung, je parlais du couturier Nicolas Jesquière.
Ouais, je cherche. Oui, parce que forcément, du coup, l'inspiration, elle vient d'autres. Là, on revient au détective sauvage, quoi. C'est là, tout d'un coup, je vais trouver un indice ou un comportement ou quelque chose qui va m'intriguer. Et qui va faire une espèce de déviation et amener une autre. C'est ça, c'est sûr.
Ils vont vous décadrer, ces artistes avec qui vous collaborez.
Je suis pas très cadrée à la base, hein, mais ils vont me. Non, c'est une stimulation totale en fait. C'est et puis des fois aussi. Enrique, c'est vrai, il disait, il décrit comment on se... Des fois, on se donne mutuellement des indices, mais sans forcément... Mais sans que ce soit clair, quoi. Donc, parfois, moi, je lui parle d'une chose ou il me parle de quelque chose, mais c'est pas en disant « tu devrais lire ça », c'est plutôt... Et puis, il y a des choses bizarres. Ben, par exemple, un artiste dont j'aime beaucoup l'œuvre parce qu'elle touche aussi à la musique, à la Sada Nafif, qui avait l'exposition là au Centre Pompidou à partir des fontaines de Duchamp. Il m'a demandé d'écrire une chanson pour cette exposition. Alors moi, au début, j'arrivais pas à l'écrire, cette chanson, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire à l'écrire une chanson? Bon, bref. Donc... La chanson, finalement, c'est je raconte comment en allant voir Patterson, le film de Jim Jarmusch, ça me permet d'écrire cette chanson. Bon, voilà, ça part comme ça. Et ensuite, du coup, ça réveille quelque chose, quoi. Mais au début, je voulais pas le faire. Je me disais, qu'est-ce que je vais écrire une chanson? Et finalement, j'écris cette chanson. Je cherche dans et puis je retrouve des chansons écrites il y a 10 ans pour Christophe. Parce qu'il m'avait demandé d'écrire des chansons pour un album qu'il était en train de préparer, qu'il n'a pas utilisé. Et je commence à me dire, tiens, ça pourrait donner quelque chose. Et donc, Sadan me parle de Julien Pérez, qui est aussi un musicien génial. Ça commence... Je travaille aussi avec un autre ami, Arto Lindsay, avec qui on doit faire un petit concert. Tout d'un coup, ça prend tournure. Et en fait... Au départ, il y a une résistance, parce que pourquoi une chanson? Et finalement, et en fait, je dirais que cette espèce de... Alors là, qu'est-ce que c'était là? Est-ce que c'était un plan de fuite par rapport à d'autres choses que je devais faire qui me semblaient tout d'un coup très lourdes, quoi, ou que je n'avais pas spécialement envie de faire? Ou est-ce que, qu'est-ce que c'est? Mais c'est juste pour montrer un peu comment, parfois ça vient comme ça aussi. C'est pas forcément, et quand je disais, à côté du fait que l'œuvre d'art est pas forcément héroïque, elle peut partir aussi de l'intuition de quelqu'un d'autre, ou de, c'est là où on redevient multiple, c'est-à-dire qu'on n'a pas, moi, je, en fait, il y a parfois, pour des étudiants, je sais pas, quand il y a une discussion qui est toujours drôle, des fois, aux Beaux-Arts, c'est l'inquiétude de qu'il y ait une cohérence dans tout ce qui se réalise. Donc, des fois, on parle de ça. Et moi, je dis toujours, mais non, mais il y a aucun souci à avoir, en fait. C'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de très différent de ce que vous allez penser faire que finalement, assez vite, tout va se ressembler, quoi. Mais il y a une telle pression à avoir une sorte de production ou de...
D'identification.
Voilà, d'existence artistique qui soit, qui est cohérente. Il y a un mot que je déteste, qui était utilisé souvent dans les écoles, qui est la démarche. Qu'est-ce que c'est la démarche? La démarche artistique. Vous savez, il y a quelques mots vraiment que j'aborde.
Heureusement, on l'a pas prononcé aujourd'hui.
Ah non, parce que je trouve que c'est la démarche, quoi. La démarche. Ah ouais, votre démarche. Oui, je marche comme ça. Non, mais c'est en fait il y a c'est marrant. Bah ça, on s'en rend compte un peu dans les écoles ou dans les textes critiques. Au fond, il y a un enfermement dans des formules qui sont très, je trouve très très contraignantes
et qui ont finalement un impact après aussi dans le réel, dans la production.
Mais un impact terrifiant.
Ce sont des mots qui pensent.
Mais un impact terrifiant.
L'art.
Et le premier travail, à mon avis, c'est toujours l'invention de vocabulaire, quoi. Trouver des nouveaux mots, trouver des nouvelles façons de décrire les choses. C'est là où la chanson, la littérature, ça aide.
Justement, c'est pour revenir à lui, décidément, il est présent, mais Enrique Villamatas, il aime bien essayer de trouver, non pas votre démarche, mais quelques-unes des clés du mystère DGF, parce que c'est comme ça aussi qu'on vous appelle, Dominique González-Foster, et il arrive à cette formule qui est Rimbaud exposé. Ça se comprend aisément quand on revient au début de la discussion sur ce jeu est une autre, sur ce multiple, sur ses apparitions. Lui, il fait aussi référence à un texte qui est une lettre de Rimbaud à sa mère, alors qu'il est en Éthiopie, et qui s'imagine s'exposer lui-même, car on doit avoir l'air, je cite, excessivement baroque après un long séjour dans des pays comme ceux-ci. Est-ce que ce Rimbaud exposé, c'est vous, au sens où c'est vos explorations, vos voyages réels, terrestres, vos voyages littéraires, vos voyages cinématographiques que vous exposez au public, comme Nicolas Foster?
Non, ce qui est génial quand il formule ça, c'est que c'est dans le temps, donc c'est la fin du 19e siècle, c'est parallèle à tout ce qui est en train de se produire, alors de manière géniale dans la photographie, avec des femmes comme la Castiglione, en fait, qui se met en scène et qui bien avant Cindy Sherman, joue avec son identité, travaille avec l'image. Et invente une œuvre. Alors après, ça donnera la marquise Casati, beaucoup de femmes, des hommes aussi, mais qui jouent en fait, qui jouent de cette idée que finalement on peut incorporer l'œuvre. Ça va donner la performance aussi. Ça va donner et qu'en fait l'œuvre n'est pas forcément un objet dissocié. Mais elle peut être une pratique qui est complètement soit incorporée, décorporée, excorporée, et il a l'intuition, en fait c'est une intuition phénoménale, quoi, de ce que va être de ce que vont être une grande partie des œuvres de la fin du XXe siècle. C'est dans ce sens. Alors je dis ça en fait pour dire que quand je les apparitions, ce rapport à l'œuvre, il s'inscrit tout autant, on va dire, dans une histoire. Il n'est pas juste une espèce d'intuition comme ça. Il poursuit une très longue recherche qui n'est pas non plus ni celle du théâtre, ni du cinéma où le corps la présence ou l'apparition, mais qui a aussi ses particularités, puisque donc ouais, c'est dans ce sens, je pense, c'est dans ce sens, c'est pas juste c'est dans le sens de continuer une histoire aussi, continuer une histoire de l'apparition, de la, et qui dit apparition dit aussi disparition. Et là, on est de nouveau, on revient à cette question assez drôle enfin, il y a autant d'œuvres qui sont visibles que d'œuvres invisibles parce qu'elles sont dans des réserves, parce qu'elles sont dans des boîtes. En fait, comment elle vit l'œuvre? Elle vit parce qu'on la regarde, elle vit parce qu'on est, c'est drôle parce que ça, c'est aussi, je sais plus, ah oui, donc il y avait l'exposition à Metz, Jardin infini, pour laquelle on a réalisé avec Joy Beetle, qui est une spécialiste des dioramas, on a réalisé le mangrovama. Donc c'est ce terrain de mangrove, donc vraiment ce swamp, ce lieu du Swamp Thing, quoi, qu'on a vu qu'on a beaucoup vu en image là. Donc l'eau, tout est immergé dans l'eau, il y a quelques livres qui flottent. Et donc ça, c'est une œuvre qui demande un long temps de réalisation. Et plusieurs fois, la question est revenue, mais ça va être détruit, c'est terrible, ça va être détruit. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Ça veut dire, je sais plus combien il y a eu de dizaines de milliers de visiteurs dans cette exposition. Il y a, je sais pas combien d'œuvres au fond, qui sont dans des caisses et qui n'ont pas vu un visiteur depuis des décennies. Non, mais est-ce qu'elles vivent, ces œuvres? Est-ce qu'elles existent?
Et justement, est-ce qu'on peut clôturer avec ça, Domingo González Foster, parce que malheureusement, on doit le faire avant de passer la parole au public, c'est justement la position du regardeur. On a compris cette continuité à la fois avec l'histoire de Rimbaud, avec l'histoire de Duchamp sur l'extension de l'identité de l'artiste, l'extension de l'œuvre également. Mais donc, dans l'histoire du rapport au regardeur, comment vous jouez cette partition-là? Vous avez dit à un moment vous vouliez l'émanciper, le spectateur, le libérer un peu de son rapport institutionnel à l'exposition.
Il y a beaucoup de correspondances entre le lecteur et le spectateur. Dans le sens où le lecteur, comme le spectateur d'exposition, par opposition, on va dire, au spectateur de théâtre et de cinéma, qui est un spectateur très captif et très concentré. On va dire, le lecteur et le spectateur d'exposition, il téléphone, il mange, il discute, il s'arrête, il se déconcentre, il re-rentre dans le truc, ils en ressortent, et ils font leur temps. Ils font leur temps là-dedans. Dire j'ai envie de lire ce livre 20 minutes maintenant, même si celui qui l'a écrit pense qu'il serait mieux à lire d'un bout à l'autre. Et dans l'exposition, c'est pareil. Je me déplace dedans. Il y a des moments où je suis dedans. Je me laisse prendre. Et puis il y a des moments où je suis pas du tout dedans. Et au fond. Ça veut bien dire qu'il y a une fabrication commune, quoi. Il y a une sorte de. Alors, je pense qu'il y a des lecteurs plus ou moins concentrés, il y a des spectateurs plus ou moins concentrés. Ce qui veut pas dire que une visite très très, on va dire. Il y a des visiteurs, des flâneurs, quoi, qui vont pas tellement regarder. Ils vont comme ça, et puis finalement, ils vont se rendre compte une semaine plus tard que
ça reste.
C'est resté. Donc, je pense qu'il n'y a aucune morale à avoir sur la manière de lire, de regarder quelque chose. Par contre, c'est évident que la réception fait complètement partie de l'œuvre.
L'esthétique relationnelle aussi, c'est ce qui avait été théorisé à un moment par Nicolas Bourriaud quand vous aviez fait votre exposition avec Philippe Parrainaud et Pierre Huyghe. Mais malgré tout, donc c'est un rapport aussi qui est plus horizontal, plus diffus, plus gazeux avec l'exposition que.
Non, mais je pense que c'est un. Non, mais je pense que c'est un rapport qui a toujours existé. Parce que de toute façon, même une peinture, pour qu'il se passe quelque chose, je pense pas que ça. Pour le coup, je pense que c'est. C'est pas du tout. Je pense que dans les différentes grottes qu'on est en train de redécouvrir, quand un dessin a été fait sur, c'est génial aussi. On le voit bien dans le film de Herzog en 3D. Quand un dessin prend avantage de la courbe comme ça, de la du rocheuse là pour devenir presque sculptural et nous entraîner presque dans un truc cinématographique. Et que, en fait, c'est par le déplacement de ce type, je sais pas, il y a 50 000 ans, dans cet espace, que se réalise la perception d'une représentation. Enfin, ça a pas tellement changé. Je veux dire qu'il y a toujours un rapport de, sauf que peut-être qu'il y a selon les périodes, peut-être des consciences différentes de la perception, de l'exposition.
C'est la fin de cette masterclass, alors peut-être que l'œuvre se posera différemment plus tard. En tout cas, elle est ainsi pour France Culture. Merci beaucoup, Domingo González Foster. Merci à vous.
C'était la masterclass de Dominique González Foster avec Mathilde Serrel. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillan.